Alléluia, merci Seigneur, merci pour ces paroles proclamées. On a proclamé toute la matinée que le nom de Jésus, c'était ce nom au-dessus de tout nom, qu'il est la vie, qu'il est le chemin, il est la résurrection. Et une fois que ces choses sont acquises en nous, que cet amour que Jésus a pour nous, on l'a acquis, on sait qu'il est là. Mais qu'est-ce qui peut nous arriver ? L'amour parfait bannit la crainte. La crainte n'a aucune place dans nos vies. Aucune. Parce que nous savons qu'il nous aime d'un amour parfait. Alors merci Seigneur. Merci pour ce temps qui s'ouvre. Seigneur, je veux me présenter vraiment humblement devant toi ce matin. Je veux me présenter humblement devant mes frères et mes sœurs, Seigneur, que te dire que je suis vraiment reconnaissant, reconnaissant pour ta parole. Reconnaissant pour la vie, reconnaissant pour ton amour, Seigneur. Alors qu'on va s'apprêter à méditer ta parole, Seigneur, je prie que nos cœurs soient ouverts, ouverts à l'accueillir, à accueillir cette parole, Seigneur, qui est la vérité, qui est la vie. Seigneur, que ton Esprit Saint vienne nous éclairer, qu'il vienne nous guider, qu'il vienne nous encourager, qu'il vienne nous fortifier. Seigneur, que ce message vienne toucher les cœurs, que tout ce qui a été dit, proclamé, chanté ce matin vienne toucher, guérir les cœurs. Seigneur, nous savons que tu es fidèle. Nous savons, Seigneur, que tu es ce Dieu aimant qui veut restaurer chacun dans ses défis, dans ses problèmes de santé, dans ses problèmes de finances, de travail, de dépression. Oui, je crois, Seigneur, que ces choses-là sont des montagnes qui sont présentes, y compris dans nos vies, y compris dans cette Église. Mais Seigneur, tu les brises au nom de Jésus, parce que ton nom, Seigneur, il est au-dessus de tous ces noms qui veulent nous tirer vers le bas. Alors Seigneur, je prie vraiment que ce temps soit un temps béni, Seigneur, et nous savons que tu es fidèle et que ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Au nom de Jésus. Amen. Alors vous avez vu, on est un petit peu en effectif réduit aujourd'hui. Je voulais vous parler de Jérémy Alain, Pierre-Antoine, mais aussi Corinne et Richard qui sont à Luxe en Saône-et-Loire. Donc c'est une rencontre du réseau Héritage, le réseau RNC qui est le réseau d'église auquel on appartient. Donc il y avait un week-end qui est le week-end annuel habituellement organisé à cette période avec les autres églises et œuvres du réseau. Et il y a donc un thème, je pense qu'ils viendront en témoigner plus tard. Et ce thème, c'est « Nous avons besoin de couples forts et de familles saines pour exercer un ministère qui porte du fruit ». Donc tout un programme, et nos frères et sœurs viendront nous témoigner de ces temps qu'on souhaite productifs pour eux et pour la vie de notre Église. Alors, depuis quelque temps, et je crois qu'on l'a vraiment senti ce matin, il y a un sentiment d'urgence. C'est quelque chose qui me travaille depuis plusieurs mois, ce sentiment d'urgence dans ces temps qu'on est en train de vivre. Et conscient qu'on doit se concentrer sur l'essentiel. Et quand on parle d'essentiel, en tout cas quand moi j'en parle, je me concentre sur Jésus. Et je me concentre sur ce qu'il a prêché. En fait, quand on lit la parole, et quand on voit la parole de Genèse à Apocalypse, toute parole est bonne, évidemment. On sait que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est dans 2 Timothée 3,16. Et je me dis que s'il y avait peut-être une hiérarchie à faire dans la parole, s'il y avait des passages plus importants les uns que les autres, même s'ils sont évidemment tous importants, peut-être qu'on devrait se concentrer sur ce que Jésus a dit. Et je me suis penché sur, et je me suis intéressé au premier mot de Jésus dans les évangiles, mais aussi au dernier. Et en fait, on voit qu'il y a une cohérence, qu'il y a quelque chose de l'esprit qui est vraiment profond, important, et qu'on doit méditer parce qu'il y a des enseignements essentiels, comme je le disais. Et je parlais de la parole de Dieu, et d'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse. Quand on parle de la parole de Dieu, et qu'on dit qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit, c'est vrai, mais la parole de Dieu, elle a été écrite par des hommes. En fait, Dieu a choisi des hommes, l'humanité, pour écrire sa parole. C'est vrai. La parole de Dieu, il aurait pu l'écrire lui, finalement, ou mandater des anges, peut-être, pour le faire, mais non, il a choisi des hommes. Et cette parole qui est parfaite, qui reflète le cœur de Dieu, le cœur de ce Dieu parfait, ben, elle a été écrite par des hommes imparfaits. Quand on y pense, et quand j'y pense, je me dis, mais c'est extraordinaire en fait. Dieu a choisi des hommes imparfaits, et on peut faire la liste, mais on ne va pas la faire là. On pense à David, on pense à Paul, on pense à Pierre, on pense à plein d'autres auteurs de la Bible. Et bien Dieu a choisi ces hommes-là pour écrire sa parole parfaite. Et ça me projette sur quelque chose qui concerne l'Église, c'est que si Dieu a choisi des ouvriers ou des co-ouvriers pour écrire sa parole, ben les ouvriers et les co-ouvriers qu'on est aujourd'hui, ben il nous a choisis aussi pour créer et développer son Église et faire en sorte que l'avancement de son royaume se fasse. Il nous a choisis, nous, avec nos imperfections, avec nos défis, avec nos maladies, avec tout ce qu'on porte qui peut être négatif. Mais pourtant, Dieu, dans sa bonté, il veut qu'on reste lié, relié à lui, intimement lié, intimement relié à lui, pour malgré tout avancer et encore avancer. Voilà, c'était cette petite réflexion que je voulais vous partager. Et donc je disais que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Et donc je disais aussi que le ministère de Jésus, vous voyez, quand on voit les évangiles, c'est un ministère qui est très riche. Et en fait, je voulais dégager quelques aspects essentiels avant de développer sur ce que Jésus a dit et sur ses paroles. Et les enseignements essentiels, c'est qu'en fait, Dieu s'est fait chair, d'accord ? Jésus-Christ, qui est venu incarner pour un but final, qui était ce sacrifice rédempteur pour nous sauver et nous amener au Père. Et ce ministère, en fait, il se caractérise par plusieurs aspects. D'abord, il y avait l'enseignement. Il enseignait avec autorité et avec sagesse. En fait, Jésus était reconnu pour ça. Et je crois qu'il y a un appel aussi pour nous, quand on voit cette partie de son ministère. Et cet appel, c'est à approfondir notre connaissance des Écritures, à approfondir cette connaissance de la parole, cette parole de sagesse, ces paroles de vérité. Et pas pour simplement nourrir notre cerveau de connaissances, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que on doit utiliser cette parole pour la partager, avec sagesse aussi, avec humilité et avec l'assurance que Dieu, quand il dit qu'il est avec nous, et ben ça c'est une vérité et qu'on doit se l'approprier. Et puis Jésus, il avait aussi dans son ministère une partie énorme où il avait de la compassion et il guérissait. La compassion et la guérison. Jésus, il manifestait de la compassion vers les rejetés, vers ceux qui étaient malades, vers ceux qui avaient besoin de soins et de guérison, vers les cœurs brisés. Là aussi, ça doit nous apprendre quelque chose pour nous. Ça doit nous apprendre à avoir un cœur compatissant pour nos semblables, qu'ils soient dans l'Église ou qu'ils soient dehors. Et puis, ceux qui souffrent, ça ne doit pas nous laisser indifférents. Ça doit nous donner quelque part une envie de les soutenir, d'être dans le soutien, d'être dans la prière, de croire que ce que Jésus faisait aussi, c'était une partie de son ministère qui est évidemment très importante, c'était cette puissance miraculeuse qui se dégageait de ce que Jésus faisait et de ce que Jésus disait. Il démontrait par son autorité qu'il avait la puissance sur le monde physique, sur le monde spirituel. Il pouvait calmer des tempêtes, il pouvait guérir, il pouvait multiplier la nourriture. Et comme il a dit que quand il s'en irait vers le Père, on ferait des choses encore plus puissantes que lui, ben je me dis que ça doit nous appeler aussi à cultiver notre foi, à la faire grandir, à croire que cette puissance de Dieu, et je disais tout à l'heure qu'on était ouvrier et co-ouvrier dans l'avancée de son royaume, et ben elle doit se manifester. Elle doit se manifester parce que Dieu veut intervenir dans nos vies aussi à travers nous. On doit rester ouvert à l'action miraculeuse du Saint-Esprit dans nos vies. Jésus l'a montré dans son ministère. Et je crois que la mission de l'Église, c'est aussi ça. C'est de cultiver cette foi en la puissance de Dieu. Et gloire à Dieu, il y a des témoignages de cette puissance au milieu de nous. Eh bien, restons ouverts à cette action miraculeuse que l'Esprit-Saint peut opérer. Et puis, il y avait un autre point, c'était le service et le don de soi. Jésus, il avait cette grâce qui était de servir. Et puis, il a même donné sa vie en rançon pour plusieurs. Et là aussi, c'est un appel pour nous à adopter cette attitude d'humilité, de service désintéressé pour les autres, en mettant nos dons et nos talents au service de Dieu et puis au service de notre prochain. Et puis il y a un cinquième point, et ce sera un peu le cœur de mon message. Jésus, il appelle régulièrement à examiner nos cœurs. Et en fait, ses premiers mots, lorsqu'il a démarré son ministère public, c'est un appel à la repentance. Le ministère de Jésus, il était centré, caractérisé par cet appel à la repentance et à la purification. Ça, c'est un message central. C'est un message central qu'on doit vraiment acquérir et c'est quelque chose qui me travaille aussi. Et je crois que ce n'est pas un hasard si les premières paroles de Jésus, elles traitent de ce thème-là. Et si même... avant Jésus, Jean, son cousin qui avait commencé à ouvrir le chemin, avait dit exactement la même chose. Quand on ouvre la parole et qu'on lit Matthieu 3 au verset 1, il est dit « En ce temps-là, parut Jésus, Jean-Baptiste, pardon, pour lapsus, prêchant dans le désert de Judée, et il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». C'est Jean qui parle. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et dans Matthieu 4, au verset 17, là c'est les premières paroles de Jésus lorsqu'il entame son ministère, il dit « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». La parole de Dieu, les mots, les syllabes, les lettres sont exactement les mêmes entre ce qu'a prêché Jean et ce qu'a prêché Jésus. Ce n'est pas un hasard. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Cette paraphrase de Jésus qui paraphrase Jean, elle n'est pas anodine. Et quand Jésus démarre aussi les béatitudes en disant que heureux les pauvres en esprit qui hériteront du royaume de Dieu, ça aussi c'est un encouragement pour nous. Nous qui parfois sommes bloqués, nous qui parfois sommes dans des situations où on a du mal à proclamer, où on a du mal à prier, où on est combattu par l'ennemi, Jésus reconnaît ça. Nous pouvons être pauvres en esprit, mais le fait de le reconnaître, le fait de nous tourner vers Jésus, de cette repentance, cette métanoïa, le fait de se tourner vers lui, de cultiver cette humilité vis-à-vis de lui, vis-à-vis des autres. Et bien finalement, ce qui nous est promis, c'est le royaume de Dieu, si on est dans cette optique. Reconnaître ses limites, admettre ses faiblesses, et chercher l'aide divine pour les surmonter, parce que oui, on est faible. Oui, par nos propres forces, on n'a aucune manière d'agir. Dans nos dans notre chair, dans notre âme, bousculée par les émotions. On ne peut rien en retirer. Il n'y a vraiment que Jésus et il n'y a vraiment que lui qui peut venir nous pousser vers le haut. Alors les premiers mots de Jésus, « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche » dans Matthieu, c'est vraiment cette déclaration qui vient marquer le début de son ministère. Et ça va donner le ton vraiment de son message central. Jésus, c'est le Messie attendu. Et il commence donc par un appel à la repentance. Parce qu'il dit qu'il y a une réalité spirituelle nouvelle qui est en train d'arriver, c'est que c'est le royaume de Dieu qui s'approche. Et pourquoi Jésus, il insiste sur ce message? Je me suis vraiment posé la question, pourquoi il insiste là-dessus? C'est quoi la repentance? C'est quoi cette réalité du royaume de Dieu qu'il nous annonce? C'est quoi ce royaume? C'est une réalité géographique? C'est autre chose? Donc j'ai essayé d'explorer un petit peu tous ces points. Et la repentance, donc c'est ce mot grec métanoïa qui signifie un changement d'esprit, un changement de cœur, un changement de direction. C'est pas simplement demander pardon du bout des lèvres. C'est pas simplement se sentir triste parce qu'on a péché et puis on demande pardon et voilà et on repart comme si de rien n'était. C'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus profond. Il y a une transformation profonde qui doit impacter et qui doit ressortir de cette repentance qui doit être un style de vie. Et c'est même d'ailleurs quand Jésus appelle à cette repentance, c'est presque un appel prophétique parce que l'appel à la repentance, il n'est pas nouveau. J'ai parlé de Jean-Baptiste qui l'avait déjà déclaré. Mais même les prophètes de l'Ancien Testament le disaient. Et Ézéchiel invitait également Israël à revenir à Dieu. Ézéchiel, au chapitre 18 et au verset 31, à partir du verset 31, nous dit « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Il y a un point important, il y a quand même quelque chose comme une frontière, et d'un côté il y a la vie et de l'autre côté il y a la mort, et au milieu il y a la repentance. Ça c'est quelque chose qui est quand même assez frappant. Et ça revient, ce cri prophétique qui revient à cette notion d'urgence dont je parlais tout à l'heure. Parce que Jésus nous dit que la venue du royaume elle est imminente. Que cette venue elle est imminente. Et que si cette venue elle est imminente, et elle appelle à une action et à une réponse qui est immédiate. On ne peut pas transiger. Et il ne suffit pas de croire ou d'appartenir à une tradition religieuse. C'est pas ça, la finalité. La finalité, c'est de croire que Jésus nous appelle, croire qu'on doit avoir un engagement personnel vis-à-vis de lui, pas un engagement à la légère. Un engagement personnel, profond, et pour entrer dans une logique de royaume et pas dans une logique de religion. Une logique de royaume où il y a un roi et où il y a des ambassadeurs, les ambassadeurs que nous sommes. Et puis cet appel, il est universel parce qu'il concerne tous les hommes. Qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient religieux, qu'ils soient pécheurs. Tous sont concernés. Et Luc, dans son évangile, au chapitre 13 et au verset 3, nous déclare « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » En fait, Luc, là, il ne fait pas de distinction. Il s'adresse aussi bien à ceux qui font des péchés visibles qu'aux pharisiens, qui sont des religieux, qui, a priori, auraient une relation privilégiée avec Dieu. Il s'adresse à ceux qui ont un orgueil spirituel comme à ceux qui sont des pécheurs et qui sont a priori éloignés de Dieu. Alors pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si important la repentance? Parce que c'est cette porte d'entrée dans le royaume. Et le royaume, C'est cette réconciliation avec Dieu, par Jésus. Le péché, il nous sépare de Dieu. Et sans repentance, on ne peut pas expérimenter la présence de Dieu. Si on ne revient pas à lui continuellement, si on n'a fait pas cet effort continuel, quotidien, comme un style de vie, de revenir à Dieu, eh ben on ne va pas expérimenter sa présence, on ne va pas expérimenter la gloire qu'il nous promet. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, qu'il écrit dans Romains. Mais la repentance, elle ouvre ce chemin. Elle ouvre ce chemin vers la rédemption et vers cette vie nouvelle en Christ. Et cette vie nouvelle en Christ et cette notion du royaume, ça m'interpelle parce que Jésus dit « le royaume de Dieu est proche ». Alors ça veut dire quoi « le royaume de Dieu est proche » ? En fait, il y a deux réalités que j'ai perçues. D'un côté, il y a le royaume de Dieu qui s'approche par Jésus, dans sa personne, car Jésus, il est le roi, et il inaugure ce règne, il s'approche de nous, et il vient régner dans nos cœurs. Le royaume de Dieu commence dans nos cœurs, parce que lui, il veut régner à l'intérieur de nous, et il veut régner sur toute chose à l'intérieur de nous. Et puis, il y a aussi cette dimension encore à venir du royaume de Dieu qui va être pleinement réalisé quand Jésus reviendra, quand son retour sera acté au moment où il l'aura décidé, où le Père l'aura décidé. Donc ce royaume, ce n'est pas un lieu géographique, c'est juste la souveraineté de Dieu, la souveraineté de Dieu qui vient se manifester dans nos vies et dans le monde. Et Paul, il l'écrit aussi dans Romains 14 au verset 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ce royaume, il est censé transformer nos cœurs. Il est censé nous libérer de la tyrannie du péché, mais nous libérer aussi de ce que l'ennemi vient souffler à nos oreilles beaucoup trop souvent. En fait, vivre le royaume de Dieu, c'est pour moi vivre selon les valeurs du ciel et faire en sorte que Jésus vienne régner dans nos cœurs. Déclarer qu'il est le roi de nos cœurs. Déclarer qu'il veut être ce souverain en toutes choses dans nos cœurs. Et que si on le laisse agir, que si on le laisse avec nous dans une position d'humilité, dans une position où on s'incline devant lui, sa grâce, elle va se manifester. Sa grâce, elle va être une bénédiction pour nos vies. Parce qu'il y a une promesse pour ceux qui se repentent. Il y a une promesse que la parole nous déclare. Elle ouvre la porte à des bénédictions. Elle ouvre la porte au pardon des péchés. Donc ça, c'est intuitivement la première chose qui nous vient. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Elle nous ouvre une nouvelle identité. Nous devenons des enfants de Dieu et nous devenons des héritiers du royaume. Puisque si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers, comme nous le dit la parole. Et puis elle œuvre cette repentance, elle crée autre chose. C'est qu'elle prépare nos cœurs à recevoir l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dans Actes 2, 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est aussi un préalable, cette repentance. Et nous sommes donc appelés à incarner ce royaume dès aujourd'hui, en étant des ambassadeurs de Christ, en aimant notre prochain, en cherchant la justice, en vivant dans l'humilité. Et puis, il y a des applications pratiques, parce que vivre la repentance, lire la parole comme on la lit là, et puis ne pas avoir d'application pratique, c'est un peu dommage. Alors, la repentance, c'est pas un acte unique, comme je le disais, c'est pas la conversion, il y a eu la conversion, et puis derrière, il y a la repentance qui doit être un style de vie. Et la parole nous dit, à travers Paul, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc on doit prendre l'habitude de demander au Saint-Esprit de révéler les domaines où on a vraiment besoin de changement. Vive la repentance et le royaume aujourd'hui, c'est ça aussi. C'est être capable de se tourner vers Dieu et de demander au Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que je dois changer? C'est quoi? C'est ces choses subtiles que parfois je vis et qui ne sont pas pour ta gloire. Donc cultivez aussi cette attitude de soumission. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Dans nos choix quotidiens, on doit chercher à aligner nos actions avec ces valeurs du royaume. Et puis, partager le message du royaume. Tout comme Jésus et ses disciples le faisaient d'ailleurs. On est appelé à proclamer ce message. Et l'évangélisation, elle commence par un témoignage personnel. C'est ça la façon la plus efficace d'attirer l'attention de ceux qui nous entourent. Ce message personnel qui... ce témoignage personnel qui, finalement, dans ce qu'on vit et dans ce qu'on dégage comme enfant de Dieu, vient interpeller. Allez, faites de toutes les nations des disciples, nous dit Jésus. Parce que ce royaume, c'est un royaume de justice, c'est un royaume de compassion. C'est un royaume de compassion. On doit s'engager activement. Refléter le royaume, c'est refléter ce que Jésus vivait quand il était sur terre. Ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, nous dit-il dans Matthieu 25, 40. On doit s'engager activement pour aider les pauvres, défendre les opprimés et être des artisans de paix, comme Jésus nous l'a enseigné. Donc il y a cette notion vraiment de décision personnelle. Je ne peux pas me repentir à votre place comme vous ne pouvez pas vous repentir à ma place. C'est une décision qui est personnelle. Jésus commence son ministère par cet appel à la repentance et je crois que ce n'est vraiment pas un hasard. Parce que le royaume de Dieu, c'est une réalité qu'on ne doit pas ignorer. Son message, il est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a 2000 ans. La question, c'est comment on y répond. Comment on y répond? Alors, si on a déjà accepté Jésus, évidemment... doit renouveler cet engagement à marcher dans la repentance et à vivre selon ces principes du royaume. Et puis si ce n'est pas encore le cas, ben, aujourd'hui peut être le jour du salut. Dans Hébreux 3,15, il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Seigneur, donne-nous ce cœur humble. Donne-nous ce cœur humble prêt à se repentir. Équipe-nous vraiment pour vivre ton royaume, pour l'annoncer. C'est un monde qui en a désespérément besoin, Seigneur. Et puis, on a parlé des premiers mots de Jésus. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais... on peut parler aussi des derniers mots que Jésus a prononcés dans les évangiles. Et je suis convaincu que ces derniers mots, ils sont aussi cruciaux pour comprendre la profondeur de ce que Jésus veut nous laisser ce matin. Les derniers mots de Jésus dans les évangiles, ils sont d'une importance capitale. Parce qu'il y a des enseignements qui sont profonds. Son œuvre, elle a été achevée à la croix. Il a prouvé son amour pour l'humanité et derrière, il a confié une mission à ses disciples qu'on est. Alors, ces paroles, finales, elles vont varier suivant les différents évangiles, que ce soit dans Matthieu, dans Luc, dans Marc ou dans Jean. Mais elles vont vraiment se compléter. Elles vont vraiment se compléter pour nous donner une vision complète de ce que Jésus veut nous laisser en héritage. Vous voyez, dans l'évangile de Matthieu, par exemple, les derniers mots de Jésus, au chapitre 28 à partir du verset 18, c'est « tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dans ces deux versets, il y a des enseignements puissants. Vous avez d'abord la souveraineté de Jésus. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus, il est le roi universel. Son autorité, elle s'étend partout, dans toutes les nations et sur toute la création. Et ça, ça nous encourage vraiment à lui faire confiance. Parce que si Jésus, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qu'est-ce qui peut nous atteindre et qu'est-ce qui peut nous empêcher d'aller de l'avant avec lui? Donc ça nous encourage à lui faire confiance vraiment pleinement dans tous les aspects de notre vie. Et puis il y a une mission universelle. Les disciples reçoivent une mission qui est très claire ici. Hein. Aller faire des disciples de toutes les nations. Donc ça montre aussi que l'évangile, il est pour tous, sans distinction. À l'époque, on pouvait dire sans distinction de race, de nation, juif, non-juif, etc. Aujourd'hui, c'est pour tous. Ceux de l'église, mais ceux aussi en dehors, au travail, dans le quartier, là où on est appelé à vivre et à côtoyer des personnes et des gens. Partout où nos pieds foulent le sol, c'est un terrain conquis pour manifester la gloire de Dieu. Parce que Jésus, il nous précède dans cette mission et dans cette tâche. Et puis, il nous promet de nous accompagner. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc là aussi, si on fait face à des défis dans notre foi, à des relâchements, à des découragements, ben, Jésus nous encourage à persévérer. Et il nous fait cette promesse pour nous donner justement cette force et cette persévérance nécessaire à l'accomplissement de cette mission qu'il nous donne. Et donc là, Matthieu, est dans c'était cet envoi en mission, et dans Marc, c'est différent, il y a un envoi dans la puissance. Là, il y a un envoi dans la puissance. Aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Là, il y a un envoi dans la puissance et les derniers mots de Jésus dans l'évangile de Marc. Et là aussi, c'est pas un hasard. Il nous envoie en mission dans Matthieu, mais il nous envoie aussi en mission et dans la puissance avec Marc. Message de Jésus, là, il dit qu'il y a un envoi vers toute la création, que l'idée que l'évangile, il n'est pas limité à un seul groupe. Il n'est pas réservé qu'à l'Église, il est réservé à ceux aussi qui sont appelés à être sauvés. Il est destiné à toute l'humanité, ce message. Et là, Marc, il souligne aussi que le salut, il s'obtient par la foi, par cette relation personnelle qu'on va nouer et qu'on va travailler avec le Seigneur. Mais aussi, bah, il met en garde hein, contre les conséquences du refus de la foi. Et c'est la condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais si la foi n'est pas là, il y a la condamnation. Et les signes de la foi, ils sont visibles. Quand on parle d'envoi dans la puissance, ils sont là. Il y a des manifestations miraculeuses. Il y a des signes, comme la guérison, la victoire sur les puissances démoniaques. C'est ce que nous dit cette parole. Il y a vraiment une puissance dans le royaume de Dieu. Une puissance qui est portée par Jésus. Une puissance qui est liée à la présence de son Saint-Esprit. Dans l'évangile de Luc, les derniers mots de Jésus, c'est l'assurance de la rédemption. Il nous est dit dans Luc 24, à partir du verset 46, que il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc là encore, les derniers mots de Jésus, ils sont puissants, ils sont profonds. Il nous parle de la centralité de la croix et de la résurrection. Il rappelle que la mort et la résurrection, sa mort et sa résurrection, sont vraiment au cœur du plan de Dieu pour sauver l'humanité. Et qu'elles accomplissent toutes les prophéties. Tout est accompli avec Jésus qui s'en va vers le Père. Puis un message de repentance et de pardon, encore une fois. On démarre avec ce message et cet appel à la repentance. Et Jésus termine aussi en vue du pardon des péchés. Et ça montre qu'encore une fois que le salut, il est vraiment accessible à tous et qu'il requiert une démarche personnelle et une réponse personnelle. Et puis une nouvelle fois, cette promesse du Saint-Esprit. Jésus, il prépare ses disciples à recevoir la puissance d'en haut. Donc ça souligne vraiment l'importance de dépendre encore une fois de Dieu. Lorsqu'on se repent, on revient sincèrement à lui. Et la puissance du Saint-Esprit, elle peut se manifester dans ce cadre-là. Et enfin, dans l'évangile de Jean, c'est la cerise sur le gâteau, peut-être, si je peux me permettre. Les derniers mots de Jésus, ils sont largement axés sur la conversation avec Pierre. Hein. Souvenez-vous, à la fin de l'évangile de Jean, il y a cette conversation avec Pierre et elles contiennent des enseignements précieux. Paix mes brebis, suis-moi. Paix mes brebis, suis-moi. C'est des mots qui sont répétés. En tout cas, le paix mes brebis. Il y a un appel à l'amour. En fait, Jésus, dans ses derniers mots, dans l'évangile de Jean, il demande trois fois à Pierre s'il l'aime. Il lui demande trois fois. Donc il veut vraiment affirmer que la base de tout service chrétien, c'est d'aimer Jésus. C'est d'aimer Jésus. Si on n'aime pas Jésus, tout est vain. Et si on aime Jésus, et ben ça doit se manifester vers le soin envers les autres aussi. Parce que l'amour pour Jésus doit appeler l'amour pour les autres. Ça doit être la suite logique. Les autres, c'est les brebis. Paix mes brebis. C'est cet appel au service, une invitation à prendre soin des croyants, à les nourrir spirituellement, à les guider. Et ça rappelle à tous les disciples, à tous ces disciples que nous sommes, qu'on a une responsabilité envers les autres. On a une responsabilité. On a une responsabilité. Et c'est donc cet appel à suivre le Christ. Les derniers mots de Jésus, c'est « suis-moi ». Deux mots. Donc ça implique de suivre et de marcher dans ses pas, même au prix de sacrifice, même au prix de souffrance. Après ce qu'avertit Pierre, que ça allait être très compliqué pour lui. Mais pourtant, Jésus nous dit « suis-moi », quelles que soient les épreuves, quels que soient les défis, quelles que soient les difficultés. « Suis-moi ». Voyez, on marche. Jésus est devant, il y a des pas. « Suis-moi ». Mettons nos pas dans les pas de Jésus. C'est tellement simple. Et c'est tellement essentiel. Vous voyez, les derniers mots de Jésus dans les évangiles, c'est comme un testament spirituel, finalement. Il nous rappelle l'importance de vivre pour lui. Il nous rappelle l'importance de vivre et de témoigner de son amour. Et vraiment, j'aimerais ce matin qu'on reste sur juste ces deux mots. Suis-moi. Ces deux mots tellement simples. Mais quand on les imprime dans notre cœur, je pense que tous les bouleversements, toutes les inquiétudes, tous les stress, toutes les anxiétés, toutes les maladies, tout ça peut être surmonté parce qu'on a quelqu'un qu'on peut suivre. On a quelqu'un qui nous a précédés. On a quelqu'un qui a versé son sang sur la croix. Ce sang de l'agneau qui nous purifie, qui nous appelle pourtant à la repentance, parce qu'il ne veut pas qu'on trébuche. Il veut qu'on puisse tous les jours, nous tourner vers lui, avec un cœur sincère, avec un cœur pur, avec un cœur qui est lié, comme une communion, cette communion avec lui, être en union avec lui, si on ne passe pas par la repentance. Qu'en est-il du royaume des cieux qui est déjà là et qui vient ? Seigneur, nous voulons vraiment nous prosterner humblement devant toi. Nous avons conscience, Seigneur, que tu es ce roi des rois, que tu es ce Seigneur des seigneurs, que tu as inauguré ce royaume, Seigneur, que tu t'es approché de nous. Seigneur, tu es venu en chair sur cette terre, tu es la parole incarnée. Tu es venu partager, Seigneur, tu es venu partager nos vies. Tu es venu partager nos défis, tu es venu partager nos souffrances. Tu es tellement venu les partager que tu as souffert la mort la plus ignoble qui soit. Tu as souffert les souffrances les plus ignobles qui soient. Que sont, Seigneur, nos souffrances du temps présent par rapport à ce que toi tu as souffert. Seigneur, nous voulons, oui, proclamer que ton sang, proclamer, Seigneur, que ton sacrifice, il n'a pas été vain, mais qu'au contraire, Seigneur, il a permis de dépouiller toutes les autorités, toutes les puissances qui ne te sont pas soumises. Parce que oui, Seigneur, ce sang qui a été versé, ce sacrifice, Seigneur, c'était pour justement les dépouiller, pour proclamer dans nos vies qu'aucune montagne n'est trop grande, qu'aucune mer ne peut nous empêcher de la traverser, Seigneur, parce que tu es avec nous et parce qu'on te suit. On te suit. Seigneur, tu nous dis « suis-moi ». Et il ne tient qu'à nous de nous accrocher à ces deux mots. Il ne tient qu'à nous d'avoir cette confiance en toi, cette confiance qui ne doit jamais, jamais cesser. Cette confiance, Seigneur, en toi, cette confiance en ta parole qui est la vérité, cette parole qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nous déclarons qu'aucune puissance ne peut nous atteindre. Nous déclarons qu'aucune maladie ne peut nous tirer vers le bas, qu'aucune souffrance, qu'aucune anxiété, qu'aucun stress, qu'aucune situation financière, aucune situation ne peut nous atteindre. Parce que Seigneur, tu es là. Parce que Seigneur, tu es ce Dieu. Tu es ce Dieu qui est avec nous et qui est en nous. Alors que ton esprit, Seigneur, que ton esprit se manifeste, que ton esprit se manifeste dans nos vies. Et nous voulons proclamer, Seigneur, avec foi, nous voulons proclamer avec foi que toutes les situations que nous vivons, et c'est un cœur à cœur entre toi et ton Seigneur, c'est un cœur à cœur entre toi et ton Seigneur. Tu dois déclarer cette situation. Et tu dois la déclarer dans le nom de Jésus. Qu'elle est faible, qu'elle n'existe pas, qu'elle est sous nos pieds, qu'elle est écrasée. Parce que le Seigneur, il l'a vaincu à la croix. Il est mort et il est ressuscité. Je proclame la vie. Je proclame la vie dans la vie de chacun d'entre nous. Je proclame la résurrection dans toutes les situations de mort dans nos vies. Ces situations, elles ne vivent plus en nous. Elles ne vivent plus en nous. La vie, c'est Jésus. La vie, ce ne sont pas ces situations. Ces situations, ce sont des situations de mort. Et la mort a été vaincue. Elle a été vaincue à la croix. Seigneur, que ta vie en plénitude, resplendisse. Qu'elle vienne nous nourrir. Que ta vie vienne nous nourrir. Qu'elle vienne fortifier notre être intérieur. Et que nous puissions être, Seigneur, malgré nos difficultés, malgré nos maladies, malgré toutes ces choses qui nous empêchent. Pourtant, cette lumière, elle brille. Cette lumière en nous, elle brille. Et Seigneur, que ce témoignage soit un témoignage puissant de qui tu es. Parce que c'est comme ça que nous témoignerons, Seigneur, que tu es Dieu, que tu es le sauveur du monde, que tu es la solution pour ce monde, et que ton royaume de vie, ton royaume de justice, ton royaume de joie, ton royaume de paix, il s'incarne parfaitement en nous. Seigneur, soyons ces artisans, soyons ces co-ouvriers à ta suite. Soyons, Seigneur, cette Église visible qui montre au monde ce Dieu invisible qu'on ne voit pas, mais qui est là avec nous et en nous. Dans le nom de Jésus. Amen.